Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans cette rencontre de la librairie Mola. Nous sommes aujourd'hui avec Philippe Corbet. Bonjour.
Bonjour.
Bienvenue, merci d'être avec nous. Alors, quelques mots de présentation avant de commencer. Vous êtes journaliste, spécialiste de la politique américaine. Vous avez été correspondant pour RTL aux États-Unis il y a quelques années. Et vous êtes aujourd'hui directeur de l'information de France Télévisions. Et vous signez ce livre chez Grasset, Armes de distraction massive. Et j'ai bien dit de distraction massive. C'est le cœur de votre propos, Philippe Corbet. Dans ce livre, je vais faire le pitch en quelques mots avant de débuter notre entretien. Dans ce livre, vous décortiquez, vous analysez les ressorts du trumpisme, cette mécanique infernale, et votre titre, Armes de distraction massive, ne fait pas référence à la guerre telle qu'on la connaît en Iran, mais vous faites référence à une autre guerre, celle du discours, celle du récit, à la guerre des mots, celle qu'on utilise tous les jours, Donald Trump. Voilà pour le pitch de votre livre et ce fil rouge qui va nous accompagner tout au long de cet entretien. Et Philippe Corbet, je voudrais qu'on démarre avec la première scène, vos premiers mots dans ce livre, parce que vous racontez une scène très personnelle. Vous êtes à New York, on est 7 mois après le retour de Donald Trump à la Maison Blanche, vous êtes avec des amis et vos amis américains vous confient leurs inquiétudes sur ce retour de Trump à la Maison Blanche et ils vous disent qu'ils songent à quitter les États-Unis. Vous faites un peu l'avocat du diable, vous expliquez qu'il y a des contre-pouvoirs, vous opposez une vision très rationnelle à ces inquiétudes et puis finalement ce livre le montre, l'ami que vous êtes a laissé très vite la place aux journalistes, à quelque chose qui est fondamental chez les journalistes, chez nous en l'occurrence, c'est la force du témoignage, c'est-à-dire que ce témoignage-là, finalement, après réflexion, il avait toute sa pertinence et il a suscité ce livre. Expliquez-nous.
Oui, c'est-à-dire que je travaillais, je réfléchissais déjà à ces questions autour de la manière dont Donald Trump est arrivé au pouvoir, puis revenu au pouvoir parce qu'il sait mieux que quiconque capter et détourner notre attention. Et c'est un sujet dont je parle souvent avec cet ami en question qui est américain. Je le connais depuis très longtemps et je le connaissais avant même avant même l'entrée en politique de Donald Trump en 2015, avant même son élection en 2016. On a eu je ne sais combien d'heures et de dizaines d'heures de conversation au propos de Donald Trump depuis son entrée en politique il y a plus d'une décennie. Je me souviens aussi que j'étais avec lui le soir de l'élection en 2020. Et ce qui m'a frappé ce jour-là, dans cette conversation-là, c'est que le ton, je ne dirais pas rassurant ou rassuré de cet ami, mais au fond, je savais ce qu'il pensait de Donald Trump. Il m'avait dit, pendant la campagne, et je le raconte aussi dans le livre, dans les dernières semaines de la campagne, qu'il était certain que Donald Trump allait passer. Et c'en était, je dirais, c'était fait une raison. En tout cas, il voyait une suite logique de la manière dont la campagne s'était passée. Donc, c'est pas l'élection de Trump en soi qui l'effrayait. Et c'est ça qui m'a frappé dans cette conversation. Au fond, ça n'était pas l'élection de Trump en 2016, le retour au pouvoir en 2024 qui l'effrayait. Ça, il l'avait regardé, analysé, anticipé, digéré d'une certaine manière. Non, c'est la manière dont il exerce le pouvoir dans ce second mandat. Et j'ai été très frappé que lui, qui est un Américain heureux dans sa vie, qui est un jeune père de famille, avec un enfant qui est mon filleul et qui est tout petit encore, que cet homme qui suit l'actualité, qui s'intéresse, qui est rationnel, et une réaction aussi inquiète sur ce qui était en train de se passer aux États-Unis. Inquiète, pas tellement pour lui, mais plutôt pour son enfant, pour son fils, que j'aime beaucoup, qui est mon filleul, et pour le pays dans lequel cet enfant allait grandir. Et comme beaucoup de gens aux États-Unis, cet ami est issu de l'immigration. Ses ancêtres, alors, ça remonte à plusieurs générations, mais on fuit les pogroms en Europe de l'Est et on trouvait aux États-Unis un refuge, un endroit où ils pouvaient retrouver la liberté, mais aussi construire une vie, construire une famille et d'une certaine manière protéger leur famille pour plusieurs générations. Et l'idée que cet ami, cet homme que j'aime beaucoup, avec son épouse et son enfant, se disent que le pays où ses ancêtres avaient trouvé refuge n'était peut-être pas le pays où ils souhaitaient que leur enfant grandisse. Et il me disait notamment, mais aujourd'hui, Je sais ce qui se passe aujourd'hui, mais qu'est-ce qui se passera dans 5 ans et dans 10 ans et dans 15 ans? Et qu'est-ce qui me dit que quand mon fils arrivera à l'âge adulte, il aura les mêmes possibilités que moi j'avais, que mes parents avaient, c'est-à-dire de choisir sa vie, de faire des études, de pouvoir construire sa vie. Et c'est cette inquiétude-là, cette responsabilité de père-là, qui le conduisait à envisager de quitter totalement les États-Unis. Et je trouve ça, parce que cette conversation a continué même depuis la publication du livre, mais extraordinairement triste, parce que moi, j'aime les États-Unis. Il se trouve que mon mari est américain, que j'y passe beaucoup de temps, que mon mari est aussi issu de... Alors lui, il n'était pas... d'une certaine manière, lui aussi a trouvé aux États-Unis refuge, puisqu'il est arrivé aux États-Unis comme réfugié politique lorsqu'il était enfant. Il avait quitté Cuba, la dictature castriste. Et le fait de voir que des gens que j'aime, dont l'histoire familiale est marquée par le déracinement, se disent que le pays où ils ont trouvé refuge, où leurs ancêtres ont trouvé refuge, dans le cas de cet ami, ce qui est la démocratie la plus puissante du monde, que ce pays ne soit pas un endroit où ils envisagent de poursuivre leur vie, je trouve ça extraordinairement triste. Et ce que j'essaie de raconter dans le livre, puisque le livre ne tient pas que là-dessus, ça au tout début dans l'introduction.
C'est le point de départ de votre réflexion.
Mais effectivement, j'essaie de dire, mais comment est-ce qu'on en est arrivé là? Et sans banaliser Donald Trump, mais je souligne au contraire le côté, l'un de ses côtés tout à fait extraordinaires, c'est-à-dire que il est l'homme le plus puissant du monde parce qu'il est l'homme le plus stupéfiant du monde, parce qu'il est le personnage le plus spectaculaire qui soit jamais entré dans le bureau ovale comme président. Et c'est ça qui, et ce que j'essaye de décrire, c'est des mécaniques et une forme de talent de Donald Trump.
Justement, on va y venir.
Détourner notre attention.
On va y venir, Philippe Corbet, parce que vous le dites très justement, détourner l'attention, c'est tout l'art de Donald Trump et c'est tout le propos de votre livre. C'est à la fois capter l'attention pour mieux la détourner, on est dans la stratégie de l'écran de fumée, mais sur un récit assez dingue. Et je voudrais qu'on commence avec la couverture de votre livre qui dit beaucoup de choses aussi, puisque vous présentez dans ce livre Donald Trump en Superman, en Super Trump, avec le costume de Donald Trump. On pourrait y voir de l'ironie, une forme de moquerie, mais au fond, l'image, elle est extrêmement factuelle, parce que même la Maison Blanche, et vous allez pouvoir nous raconter tout ça, mais même la Maison Blanche a communiqué officiellement avec une photo de Donald Trump en Superman, en Super Trump, avec même une légende, une présidence de Trump, la vérité, la justice et la méthode américaine. Il y a un vrai détournement d'une image clé de la pop culture américaine et vous en avez fait votre couverture. Et pourtant, si c'est très parlant, c'est très factuel aussi. Et on rentre là dans le cœur de votre propos. Racontez-nous un peu tout ça, cette mécanique-là, elle apparaît à travers cette image que vous avez choisie en couverture.
Cette photo, ce n'est pas une esquisse que j'aurais imaginée avec mon éditeur pour la couverture du livre. Non, c'est une photo prise avant la première campagne, avant la première élection de Donald Trump. Donc il y a maintenant près d'une décennie. Une photo d'un grand billboard, c'est-à-dire une grande affiche à Times Square. Donc vous voyez, Times Square, c'est un endroit où il y a d'immenses publicités, parfois de plusieurs dizaines de mètres. Et donc là, c'est une immense affiche qui avait été... un immense panneau publicitaire qui avait été acheté par un groupe de soutien à Donald Trump, pas la campagne elle-même, mais une sorte d'association de soutien à Donald Trump, qu'il avait donc représenté en Super Trump avec les codes de la bande dessinée. C'était avant sa première élection. Et ce que je raconte dans le livre, au-delà de cette couverture, mais dans tout un chapitre, c'est comment Donald Trump, depuis longtemps, utilise cette figure de Superman. C'est en partie générationnel, puisqu'il a grandi, comme beaucoup d'Américains, dans les années 50-60, avec ses bandes dessinées, puisque Superman est né dans les années 30. Il y a eu un retour à la mode, d'une certaine manière, de la figure de Superman à la fin des années 70, au début des années 80. Et donc, d'une certaine manière, avec les films de Christopher Reeves, et ces films-là ont symbolisé, même si ce n'était pas l'intention originelle des producteurs, mais l'époque de l'Amérique triomphante, de Ronald Reagan, qui correspond aussi à l'époque où Donald Trump, qui est né en 1946, donc qui à l'époque avait une trentaine d'années, c'est l'époque où Donald Trump devient une personnalité publique à New York, puis au niveau national. Et je raconte dans le livre comment est-ce qu'au fil des décennies, il y a beaucoup de références de Trump à Superman. Lui-même a organisé régulièrement des anniversaires ou autour du thème de Superman. Il a fait référence dans des interviews au fait que Superman était une inspiration, ou plutôt que il fallait que le président des États-Unis soit une sorte de Superman. Ses partisans, enfin en tout cas certains de ses partisans, créent souvent des images de Trump ou des représentations de Trump dans un costume de Superman, les postes sur les réseaux sociaux. Et il est arrivé souvent que le président des États-Unis ou ses proches, notamment son fils, relayent ces images-là et donc font passer des photomontages ou des images représentant Trump en Superman, de petits groupes de soutien à Trump, à une audience très importante, virale, puisqu'ils relayaient sur leurs comptes sociaux ces images-là. Et effectivement, vous le mentionnez, au printemps dernier, lorsque le nouveau film Superman est sorti, il y a eu la Maison-Blanche, le compte officiel de la présidence des États-Unis, qui a publié une image de Donald Trump en Superman. Et c'est une référence qu'on entend souvent. Moi, j'écoute beaucoup Fox News, et c'est une référence récurrente sur Fox News, pas permanente, pas quotidienne, mais il y a, et je dis pas ça du tout pour me moquer, au contraire, il faut bien comprendre que pour une partie des États-Unis, je ne parle pas de l'ensemble des électeurs de Trump, je ne dis pas que l'ensemble des électeurs républicains le voient comme ça, mais pour une partie de sa base, Donald Trump est une sorte de Superman, une sorte de super-héros, et que... ce que nous prenons pour parfois qui peut nous dérouter et ce qui casse les codes de président plus classique est perçu par une partie de sa base justement comme un côté comme ça aventurier, une forme d'élan qui justement va contre les conventions. Et je trouve que c'est intéressant que Donald Trump utilise toute cette imaginaire autour de Superman, et c'est pour ça que je voulais mentionner cela dans le livre, et en faisant notamment référence à une scène que nous avons vue et dont je raconte les coulisses. C'était pendant la campagne 2020, donc quelques semaines avant sa défaite électorale en 2020. Il est président et il contracte le Covid. Donc c'était quelques mois après l'explosion de la pandémie. Il contracte le Covid à peu près un mois avant l'élection. Évidemment, il est hospitalisé. C'est un Covid assez sévère. Et à ce moment-là, il y a une incertitude sur est-ce qu'il va s'en remettre, est-ce qu'il va être capable de terminer sa campagne, etc. Il est président des États-Unis, candidat à sa réélection. Et quand il comprend qu'il va pouvoir sortir de l'hôpital et que le plus dur est passé, il interroge ses conseillers sur la manière dont il va réapparaître après quelques jours de disparition. Et il suggère à ses conseillers une mise en scène au soleil couchant, à la Maison Blanche. Donc, dans son idée, il prendrait un hélicoptère depuis l'hôpital militaire qui se trouve pas très loin de Washington, et c'est un hélicoptère qui l'amènerait à la Maison Blanche. Il descendrait l'hélicoptère au soleil couchant. Très beau soleil d'automne en Amérique du Nord, un soleil d'été indien magnifique. Et là, il remonterait vers la Maison Blanche d'un air conquérant. Il montrait à ce qu'on appelle le balcon Truman, c'est-à-dire le balcon qui de l'arrière de la Maison Blanche qui surplombe les jardins de la Maison Blanche et le mall avec le monument, le Washington Monument, qui est l'espèce d'obélisque qui est au milieu du mall de Washington. Et là, donc devant les caméras en direct, il arracherait sa chemise comme le fait Superman, avec dessous une référence soit un S de Superman ou un T de Trump. Mais il avait cette idée d'imaginer, de mettre en scène une séquence cinématographique pour symboliser son retour à la vie, son retour dans la campagne. Et on était dans un moment où il n'était pas favori des sondages, il était même en grande difficulté. Et c'était une manière de dire, regardez, j'ai vaincu la maladie qui allait me terrasser, j'ai vaincu la mort, et donc je peux vaincre l'adversité politique et gagner tel Superman. Bon, il se trouve que ses conseillers, y compris ceux qui sont les plus obéissants, lui ont dit que peut-être cette mise en scène allait un peu trop loin, et que ça pourrait être mal perçu, ou en tout cas que ça créerait une situation politique. En tout cas, c'était pas forcément une bonne idée. Donc il n'est pas allé jusqu'au bout, mais la mise en scène, on y a bien insisté. Simplement, au lieu d'arracher sa chemise pour révéler un costume de Superman, il a arraché son masque comme ça, d'un geste un peu spectaculaire devant les caméras et dans la situation que je vous ai décrite, c'est-à-dire sur le balcon Truman, au soleil couchant, à la Maison Blanche, tout ça devant les caméras. C'était pas aussi spectaculaire que Superman, mais néanmoins, il y avait cette idée-là, cette idée de montrer comme ça le menton en avant qu'il est un homme fort, tel un super-héros.
Alors justement, Philippe Cormier, dans votre livre, vous faites aussi le cheminement médiatique, l'apprentissage médiatique de Trump, c'est assez édifiant. Racontez-nous le Trump de Page Six, où il a du New York Post, où il se fait mousser, parce que c'est important, parce que tout ça vient de très loin. Trump fait une vraie construction de son personnage médiatique, et on en était au préambule de notre entretien, c'était cette guerre du discours, cette guerre des mots. Pareil, on parlera de Steve Bannon et de toutes les stratégies qui ont été mises en place, mais ce Trump-là, de Page Six, il est quelque part fondamental. C'est une brique dans la construction de Trump. Racontez-nous, parce que c'est assez dit. Il y a plein d'histoires là-dessus où il appelle lui-même les journalistes, mais je vous laisse nous raconter ça.
Je n'aurais pas écrit ce livre sur Donald Trump si je n'avais pas écrit il y a quelques années un précédent livre qui s'appelle Roy Cohn, l'avocat du diable, qui était une biographie, un long portrait de son mentor, son avocat, Roy Cohn, qui a été une figure majeur dans la vie de Donald Trump, puisqu'il a été son mentor, son Pygmalion, et qui a joué un rôle dans l'histoire américaine, qui était procureur au moment de... qui a fait condamner les époux Rosenberg à la chaise électrique, à la peine capitale, pour avoir fait fuiter les documents permettant à l'Union soviétique d'établir de construire une bombe atomique. Donc ça, c'était dans les années, fin des années 40, début des années 50. Il a été aussi le bras droit de McCarthy lors de l'époque de la chasse aux sorcières, qui était cette période d'obsession anticommuniste. Et donc, il a joué un rôle central là-dedans. C'est devenu un avocat très célèbre à New York, avocat de puissants, de grands patrons, de responsables politiques, de célébrités. Et donc, il était un expert dans l'influence et dans la manipulation des médias. Et notamment, c'est lui qui a joué un rôle auprès de Rupert Murdoch, donc qui était un patron de médias australien qui, après avoir investi le Royaume-Uni, débarqué à New York et a racheté donc le New York Post dans les années 70. New York Post, c'était un tabloïd, un journal populaire, qui était plutôt à gauche, en tout cas, qui n'était pas à droite. Et dont il a fait un journal très conservateur et d'une droite populaire, mais une droite plutôt à droite. Et avec un ton très particulier, qui est un ton singulier, de titraille assez agressive, d'humour, et aussi une forme d'audace journalistique à mettre les sujets qui fâchent en une. Et donc voilà, et à New York, il y avait le New York Post, plutôt à droite, c'est toujours le cas, et le Daily News, plus à gauche, qui est beaucoup moins puissant que le New York Post. Et donc on ne peut pas comprendre Donald Trump si on ne comprend pas la culture des tabloïds de New York, le Daily News, New York Post, et notamment son attachement au New York Post, pour lequel il a beaucoup d'affection. Il est assez proche de Rupert Murdoch, qui est toujours propriétaire du New York Post. Et ça lui a appris notamment, plutôt il s'est imbibé, non seulement des conseils de Roy Cohn, mais aussi de ce que Roy Cohn lui a appris pour d'une certaine manière, pour marquer les esprits et faire la une du New York Post. Donc notamment l'idée, le sens de la formule, des formules. Aujourd'hui, il le fait par tweet ou il le fait dans des conférences de presse ou des interviews, mais ça lui vient d'abord de cette culture de l'écrit, c'est-à-dire de sortir une citation, une phrase qui va faire bam, qui va faire clac, qui va se retrouver en une du New York Post. Et dans le New York Post, il y a une rubrique qui s'appelle Page Six, qui n'est plus sur la page 6, mais ça s'appelle toujours Page Six, qui est une rubrique célébrité, mais c'est pas célébrité au sens Paris Match ou Gala en France, c'est plutôt la chronique de la vie des gens célèbres et avec un ton très mordant, mais très mordant, c'est-à-dire assez, même parfois assez agressif. Et donc Donald Trump est devenu, comme d'autres, mais sur les conseils de Roy Cohn, est devenu assez habile pour à la fois apparaître dans Page Six, parce que apparaître dans Page Six, ça veut dire qu'on comptait, qu'on était connu, qu'on était influent. Et puis, quand il y avait des histoires qui ne lui convenaient pas, ces histoires de sexe, de divorce, etc., d'influer sur le New York Post, sur Page Six, pour détourner l'attention ou pour, d'une certaine manière, peser sur le récit. Et ce que je raconte dans le livre, c'est comment est-ce qu'il a, il a fait ça pendant des décennies, et il a appliqué ce qu'il a appris dans ce moment-là à d'autres choses ensuite, à la télévision, quand il a fait la télévision, puis aux affaires, évidemment, et aussi à la politique. Et je raconte notamment, par exemple, une scène il y aurait 1000 scènes à raconter pour Trump et le New York Post. Il est d'ailleurs très ami avec l'une des chroniqueuses mondaines du New York Post qui alimente la page 6 de Potin et de Cancan. C'est Rolcon qui les avait présentées. Mais je raconte une scène qui est liée à la naissance de sa fille. Donc, en fait, c'est son deuxième mariage. Il a eu 3 enfants du premier mariage. Le mariage finit dans un divorce qui fait la une des journaux. Le New York Post soutient plutôt Trump. Le Daily News soutient plutôt l'épouse. Voilà, ça se passe très, très mal. À un moment donné, il fabrique une citation qui fait dire à sa maîtresse, qui allait devenir sa deuxième épouse, qu'elle a eu avec Donald, c'est comme ça qu'elle parle, elle a eu avec Donald le meilleur sexe de sa vie. « Best sex I ever had ». Et donc, ils se marient et elle est enceinte, elle va accoucher. Et les journaux veulent se battre pour avoir la première photo de la fille Trump. Ça peut vous sembler ridicule, mais Donald Trump était une célébrité à ce moment-là. Donc, il y avait un enjeu, avoir la première photo. Bon. Et au point qu'un journaliste de tabloïd, un photographe, arrive dans la chambre de la jeune maman à l'hôpital, à la clinique. Elle vient d'accoucher, elle a son bébé, et un photographe se présente. Et là évidemment, Marla Maples, la deuxième épouse de Donald Trump, renvoie le journaliste en disant « Qu'est-ce que vous faites là? J'ai pas du tout envie de prendre une photo, je viens d'accoucher, laissez-moi tranquille avec ma famille. » Le journaliste repart, et Donald Trump court derrière le journaliste, le rattrape dans le couloir. Il a une sorte de couverture de l'ange dans ses bras, et il dit au photographe « Prenez une photo de moi, là, avec mes anges, on verra pas qu'il n'y a pas de bébé dedans. » Parce qu'il voit tout l'intérêt qu'il a à se mettre en scène à ce moment-là comme ayant eu un enfant, avec une très belle femme, qu'il est un père heureux. Et il voit aussi l'intérêt qu'il a à restaurer l'image d'un père de famille attentif, alors que pendant des années, les années précédentes, avec le divorce, les infidélités puis le divorce, il a été dépeint beaucoup en un homme infidèle et ce qu'il était, etc. Et là, ayant épousé sa maîtresse, ayant un enfant avec sa maîtresse, il trouve l'intérêt de poser en photo, même s'il n'y a pas de bébé. Et au fond, qu'il n'y ait pas de bébé à l'intérieur de la couverture, ça n'est pas très grave. L'important, c'est qu'il y ait une photo qui existe. Il se trouve que la photo a été prise. Elle n'a jamais été publiée par le journal, puisqu'il n'y avait pas de bébé dedans. Ils ont considéré que la mise en scène du jeune papa Trump ne valait pas publication.
Alors, vous poursuivez sur ce terrain-là, parce que c'est important d'avoir ce cheminement, parce qu'on comprend forcément mieux ce qui se passe maintenant, mais toujours sur la guerre du récit. Il y a un événement marquant, et vous le racontez très bien dans ce livre, c'est une forme de reconnaissance arrive avec un portrait dans GQ qui notabilise Trump, qui le fait sortir de page 6 et des cancans et des propos mondains. Mais il y a un détail, racontez-nous, c'est sur ses mains. Trump a un problème avec ses mains, et vous le racontez très bien. Et là, on voit une faille, et ça devient une obsession chez lui, et ça perdure dans le temps avec la carrière, etc.
Donc là, on est quelques années plus tôt, avant la naissance de sa fille. Il est toujours donc avec sa première épouse. Ses enfants sont encore assez petits. Le plus âgé doit avoir 7-8 ans. Et il est donc devenu une demi-célébrité à New York, grâce notamment au New York Post, à Page Six. Mais ça serait inexact de dire que c'est l'homme le plus célèbre de New York. Néanmoins, donc Roy Cohn, qui est son mentor, son pygmalion, essaie de le pousser. Et c'est à ce moment-là aussi qu'il commence à dire à Trump que Trump peut jouer un rôle national, peut devenir un homme qui compte, y compris en politique. Et donc, Roy Cohn tanne l'un de ses vieux amis, ami d'enfance, avec lequel il a grandi, qui est toujours l'un de ses meilleurs amis, qui s'appelle Cy Newhouse, et qui est l'héritier et le nouveau patron d'un groupe qui s'appelle Condé Nast, qui est propriétaire notamment de journaux, plein de journaux régionaux, et aussi de magazines. Dans ces magazines, les plus célèbres étant Vogue, c'est aussi au moment où il relance Vanity Fair, donc des magazines en papier glacé, et donc ce Newhouse a beaucoup de succès dans cela. Et il a un magazine, donc Vogue, c'est plutôt pour les femmes, et il y a GQ, qui est un magazine un peu équivalent pour les hommes, sur l'homme élégant, l'homme moderne, voilà, les montres, les cigares, les voitures, etc. C'est un magazine de très bonne qualité. Et Et il se laisse convaincre par, par son ami Roy Cohn, qui lui dit, écoute, vraiment, là, ce Trump que je t'ai présenté, que tu vois souvent avec moi, c'est vraiment un mec épatant. Tu vas voir, il ira loin, il a beaucoup de talent. Tu devrais faire un portrait de lui, faire un portrait de lui dans GQ, parce qu'il correspond à peu près à l'homme dont peuvent rêver les lecteurs de GQ, c'est-à-dire un homme qui réussit dans les affaires. On est à l'époque aussi de Wall Street, de la réussite des businessmen. C'est un peu l'équivalent en France de l'époque où on voit apparaître Bernard Tapie, en Italie Silvio Berlusconi. Et il dit, Roy Cohn, c'est un personnage, tu vas voir, c'est intéressant. Et Newhouse donc fait faire un papier sur Donald Trump dans GQ et confie, il se trouve que la personne qui écrit cet article donc passe beaucoup de temps pendant plusieurs jours avec Donald Trump. C'est un long article détaillé, donc il suit Trump partout, et c'est un très bon journaliste qui ensuite va devenir patron de Vanity Fair pendant très longtemps, pendant plusieurs décennies. Et dans ce reportage, ce qui est assez intéressant avec ce reportage, c'est que c'est un très bon papier, assez épaté sur Trump, en fait, assez c'est un sacré personnage. Et il note, il l'accompagne, donc il le fait venir dans sa limousine avec un téléphone. Et à l'époque, avoir un téléphone dans sa voiture, c'est le comble de la réussite. Et le papier est vraiment très favorable, mais il y a juste un détail qui déplaît fortement à Trump, qui est que ce journaliste note qu'il a des petites mains, ou plutôt des petits doigts. Et il le note au détour du papier, au détour d'autre chose. Et Trump est tellement furieux de cela qu'il fait acheter tous les numéros que trouvent ses collaborateurs. Enfin, en gros, ils ont consigne de vider les maisons de la presse et les kiosques partout pour l'acheter. Donc, GQ, c'est un magazine national. Mais il ne se rend pas compte à quel point c'est un bon article. Il fait la couverture. C'est la première fois qu'il fait la couverture d'un magazine national. Le magazine se vend très bien, et pas seulement parce que les collaborateurs de Trump ont acheté plein de numéros. Non, il se vend très très bien. Il se vend plus qu'un exemplaire normal, alors même que ce n'est pas quelqu'un de très célèbre en couverture. Et donc Newhouse, le patron de Condé Nast, remarque ça, remarque que ce numéro s'est bien vendu. Au passage, pardon, je suis passé. Si Donald Trump est très agacé par cette remarque sur ses mains, c'est qu'effectivement il a des mains plus petites que sa carrure, qu'une pourrait laisser penser sa carrure. Et dans son esprit, il l'a raconté plus tard à plusieurs reprises, il déteste ça aussi parce qu'il n'aime pas l'idée de l'association d'une corrélation entre la taille des mains et la taille de son entrejambe. Bon, je referme cette parenthèse, mais c'est pour comprendre pourquoi est-ce que Donald Trump est très agacé quand on lui parle de ses mains. Et donc le magazine se vend très bien. Le patron de Condé Nast remarque qu'il y a quelque chose autour de ce personnage, effectivement, et donc demande à son groupe, il y a une maison d'édition qui s'appelle Random House, qui est une grande maison d'édition aux États-Unis, et il dit à l'éditeur, ça serait peut-être une bonne idée de faire un livre avec ce monsieur, parce que je crois que c'est un personnage qui intrigue, qui correspond à l'époque, et ce livre deviendra L'Art du Deal, le livre qui a construit qui a permis à Trump d'établir sa légende, qu'il cite souvent. Il dit que c'est le meilleur livre avec la Bible. Et sans cet article-là, il n'y aurait pas eu L'Art du Deal, le livre. Sans L'Art du Deal, il n'y aurait probablement pas eu la télé-réalité une quinzaine d'années plus tard, parce que c'est presque une vingtaine d'années plus tard, parce que c'est ce livre qui va faire de lui une célébrité nationale, qui va lui permettre d'être invité un peu partout dans les talk-shows au niveau national. Et sans cet article, sans ce livre, sans cette télé-réalité, il ne serait peut-être jamais devenu président, ou en tout cas, son entrée en politique ne se serait pas faite avec un personnage construit comme ça, façonné par la légende, tel qu'il a pu le faire pendant plusieurs décennies. Et donc, c'est peut-être qu'il serait devenu président sans cela. Mais en tout cas, ça l'a beaucoup aidé d'avoir pu façonner comme ça, depuis les années 80, une légende, une réputation, un personnage, parce que quand il est entré en politique, au fond, les gens étaient moins attachés à ce qu'il disait sur le fond, même s'il y avait deux, trois saillies qu'il a réussi à imposer dans le débat public. Mais surtout, il connaissait bien le personnage tel qu'il l'avait façonné. Et ils aimaient le personnage, il y avait une confiance qui s'était établie avec ce personnage-là, tel qu'il l'avait conçu pendant plusieurs décennies. Au passage, ce qui est amusant, c'est que quelques jours avant son investiture, donc après son élection, avant son investiture en 2000, donc il est élu fin 2016, il est investi en 2017, Donald Trump, qui s'est fâché pendant des décennies avec ce journaliste de GQ qui a été patron de Vanity Fair, a envoyé une photo... Non, pardon, c'est quelques jours avant son entrée en campagne en 2015. Il envoie une photo de Trump... Trump envoie une photo à ce journaliste, Graydon Carter, qui est à l'époque patron de Vanity Fair, et lui dit, lui entoure au feutre en lui disant, fait un message qui fait référence au fait que 40 ans plus tôt, il lui avait décrit des doigts trop petits et que c'était pas vrai. Et 40 ans plus tard, non seulement il ne l'avait pas oublié, mais il ne lui avait pas pardonné d'avoir décrit qu'il avait des mains trop petites. Cette histoire de mains trop petites poursuit Trump depuis des décennies, puisque pendant la campagne en 2015-2016, ça a été même l'un des objets de débats politiques, puisqu'il y a eu notamment un débat entre candidats républicains, auquel participait notamment Marco Rubio, qui est aujourd'hui son secrétaire d'État, et peut-être son successeur s'il se présente à la Maison-Blanche, qui l'emporte. Mais Marco Rubio s'était moqué des doigts de Donald Trump, de la taille des doigts de Donald Trump, en faisant référence à cet article de GQ des années 80, et en faisant référence aussi à cette idée que, puisqu'il a des mains petites, il ne serait pas un homme très viril, ce qui est absolument idiot, évidemment. Mais Trump s'était vexé, et donc ça a fait l'objet d'un moment politique dans un débat présidentiel très sérieux, juste avant sa première élection en 2016.
Alors, on n'a pas encore parlé de politique, Philippe Cormier, mais on le voit bien parce que votre propos, ce sont les armes de distraction massive et cette capacité de Trump à imposer son récit, vrai ou faux d'ailleurs. Je voudrais qu'on parle de Steve Bannon parce que je passe bien entendu tout propos. Il y a encore beaucoup d'anecdotes dans votre livre et là, je vous invite à le lire, à le découvrir. Mais en tout cas, parlons de Steve Bannon parce qu'on a bien compris qu'il y a une construction, un rapport aux médias qui est très étroit, complètement pensé par Trump, qui a décidé d'en faire son allié. Steve Bannon arrive dans le parcours politique de Donald Trump, bien entendu. Et je reviens sur une des phrases que vous attribuez, une citation de Donald Trump qui est dans votre livre, qui dit « Les démocrates n'ont pas d'importance, la véritable opposition, ce sont les médias, et la façon de les gérer, c'est d'inonder la zone de merde ». Cette phrase est célèbre chez Bannon, elle dit tout. Racontez-nous, parce qu'au fond, quand on a lu ça, on voit que c'est ce que Trump applique. Est-ce que là, on est dans le mécanisme ultime du Trumpiste? C'est ça, le ressort, inonder la zone de merde?
Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que cette phrase, elle est dite par Bannon au tout début du premier mandat. Donc, Steve Bannon, qui est une personnalité à la fois centrale pour comprendre Trump, mais qui maintenant, depuis assez longtemps, est très périphérique par rapport à... Il n'est plus du tout dans l'entourage proche de Trump. Mais néanmoins, dans la fin de la campagne en 2016... En fait, à l'été 2016, la campagne de Trump est dans un sale état. Il va perdre. En tout cas, c'est ce qu'il pense. Et donc, il change sa direction de campagne. Il fait venir deux personnes, Kellyanne Conway, comme numéro 2, et comme directeur de campagne, Steve Bannon, qui est un homme intelligent, qui a fait de grandes études, qui a fait travailler dans la finance, mais qui a aussi été militaire, et qui est un agitateur d'idées avec des instincts politiques assez forts et qui pense qu'il représente la base MAGA, la base Make America Great Again, c'est-à-dire une base populaire, populiste aussi, anti-interventionniste sur les questions politiques étrangères, très anti-Wall Street, anti-finance sur les questions économiques, anti-médias sur les questions dans la société américaine. Enfin bref, une sorte de posture populiste très très forte, assumée par Bannon. Trump le prend comme directeur de campagne et ça lui sert puisqu'il est élu. En tout cas, ça, il contribue à sa victoire. Et ensuite, quand Trump arrive à la Maison-Blanche, il a comme conseiller spécial Bannon. Ça ne va pas durer longtemps parce que Bannon a un caractère de cochon, il se fâche avec tout le monde. Et donc, il est finalement écarté par Trump. Mais néanmoins, au début de ce mandat, Bannon dit publiquement à un journaliste que, effectivement, la stratégie, c'est pas de se préoccuper des adversaires politiques. Trump, les punch, enfin, les tape dessus toute la journée, mais c'est le débat politique. Le vrai ennemi, ce sont les médias. Alors même que Trump vient d'une, comme j'ai raconté tout à l'heure, de décennies de manipulation habile de la machine médiatique, c'est-à-dire qu'il était, il savait très bien jouer avec les journalistes. Et Bannon, il est très déçu d'ailleurs quand il est élu de ne pas avoir la reconnaissance par la presse de ce qu'il espérait. Et donc il en est amer en fait. Et Bannon le convainc que les médias sont hostiles, resteront hostiles contre lui. Et c'est ça la vraie opposition. Et Bannon souligne, alimente ou confirme Trump dans son instinct, qui un instinct aussi lié à ces décennies de jeu avec le monde médiatique, que la manière de les étouffer, d'étouffer la presse, ce n'est pas de les museler, ce n'est pas de les censurer à proprement parler. En tout cas, ce n'est pas la méthode la plus utile. Et la meilleure méthode, en fait, c'est de les noyer. Les noyer dans un bruit permanent, dans un flot, ce qu'il appelait un flot de merde. Mais c'est ça, c'est qu'au fond, et c'était d'autant plus vrai dans le premier mandat, moi, ça m'a frappé, j'étais reporter, j'étais correspondant aux États-Unis à ce moment-là, vous levez le matin, vous pouviez avoir 4 tweets sur 4 sujets différents qui déclenchaient à chaque fois une polémique, un scandale, et dans lesquels, derrière lesquels couraient les médias, y compris les médias très sévères sur Trump, mais qui étaient embarqués dans une couverture qui avait été dictée par Trump, en fait. Y compris la presse internationale, hein, on était tous embarqués là-dedans. Et c'est difficile, et ça l'est toujours dans le deuxième mandat, de comment prendre cette distance avec ça. C'est-à-dire que vous pouvez dire, non, mais moi, je ne vais pas courir derrière tous les ballons lancés par Trump. Et en même temps, quand il dit telle chose spectaculaire ou telle chose scandaleuse ou tel mensonge, c'est difficile de l'ignorer. Si vous l'ignorez, vous passez à côté de ce qui fait l'actualité, puisque quand le président de la première puissance du monde dit quelque chose et que ça a des conséquences sur les marchés financiers, sur la mobilisation militaire de pays rivaux ou sur le rapport de force internationale, bon, il faut en tenir compte. Et Bannon avait bien dit en quelques mots là, inonder la zone de merde, comment Trump arrive, même quand il se fait critiquer, à d'une certaine manière donner le là.
Ça a été théorisé sur un concept qu'on doit à Roger Ailes, le patron de Fox News, c'est celui de la voix la plus bruyante dans la pièce. Et Trump l'a complètement intégré, théorisé, c'est ça, Philippe Corbet, si on voulait résumer le trumpisme au-delà de la formule choc de Bannon, la voix la plus bruyante dans la pièce. Pas trop le sens, c'est oui. Le bruit.
Alors Roger Ailes, c'est la manière dont il est décrit par un journaliste qui s'appelle Gabriel Sherman, qui a fait une biographie de Roger Ailes avant la première élection de Trump, qui est assez brillante, qu'il l'appelle comme ça, « The loudest voice in the room ». Et ça correspond aussi à Trump. Et je raconte dans le livre comment est-ce que Trump, je parle d'un mégaphone, c'est-à-dire que comment est-ce que Donald Trump arrive à capter notre attention, c'est souvent tout simplement en parlant plus fort que les autres. C'est-à-dire qu'il prend un mégaphone, il dit des choses, parfois qui sont censées, parfois qui ne le sont pas. Parfois, elles sont factuellement vraies, parfois, elles sont totalement fallacieuses et mensongères. Mais à partir du moment où il écrase de bruit notre monde et notre cerveau, il est au centre du jeu. Il est impossible, ou en tout cas, il est extraordinairement difficile de détourner l'attention et de ne pas s'en préoccuper. Et ça, c'est un... Non seulement c'est brutal, mais c'est extraordinaire, mais c'est efficace. C'est-à-dire que, qu'on le veuille ou non, et on le voit bien ces dernières semaines, avec la guerre en Iran, mon livre a été publié avant le début de la guerre en Iran, mais on le voit bien, comment est-ce que il parle tous les jours ou presque, parle publiquement à des micros, ou parle ou s'exprime sur son réseau social, comment est-ce que en un tweet, en un message sur tout social, en une phrase autour des tours d'une conférence de presse, il peut d'une certaine manière, capter, détourner ou guider la couverture de la guerre, y compris pour les gens qui le critiquent. Mais, et que ça a des effets, cette incertitude qu'il crée, il pense, il n'a pas toujours tort, il pense que ça lui donne la maîtrise du récit et donc la maîtrise de la manière dont les choses vont se passer. C'est-à-dire que pour Trump, le récit de l'action est souvent plus important que l'action elle-même. Et quand il dit des choses contradictoires, parfois à deux phrases en quelques minutes, cette confusion qu'il crée, il pense qu'elle le sert. Et je crois qu'il n'a pas toujours tort. C'est-à-dire que cette confusion qu'il crée lui permet aussi de garder la maîtrise du tempo. Et ça, c'est assez... Alors, ceux qui ont essayé... Enfin, un nombre de gens qui ont essayé de faire comme lui n'ont pas réussi à faire comme lui... Mais cette cacophonie créée par Trump, ce bruit de fond créé par Trump, il est permanent dans nos oreilles, et pas seulement aux États-Unis. Et c'est et je raconte dans le livre comment est-ce que notamment c'est l'une des questions moi qui m'a enfin j'étais pendant la campagne en 2024 la campagne avant son éventuelle réélection c'était l'une des questions c'est est-ce que les Américains allaient vouloir brancher à nouveau le spectacle Trump qu'ils mangent matin midi soir depuis maintenant plus d'une décennie vous allumez et c'était le cas aussi quand il n'était pas président. Et vous allumez une radio ou une télévision le matin, le midi, le soir, on parle de Trump. À part un bref moment, en gros, entre l'été 2021, après son départ un peu piteux de la Maison-Blanche et l'assaut contre le Capitole, et l'été 2022, à part ces moments-là, il a occupé l'espace médiatique, aspiré tout l'oxygène pour les autres et est au centre du jeu. Et en ça, il est la personnalité la plus marquante de notre époque. Et là où il est très fort, c'est que il a compris par instinct et par usage que notre attention est moins concentrée qu'avant. Et donc, il sait capter notre attention.
Justement, Philippe Corbet, on arrive pratiquement au terme de notre entretien. Il y a un aspect que vous abordez à la fin de votre livre aussi qui est important. On sort un peu de la politique, mais dans la grande confusion des genres qu'entretient Donald Trump, c'est celui de l'argent. Et vous racontez ces dîners dans son golf de Mar-a-Lago à parfois $1 million l'assiette, en tout cas le placement pour le rencontrer. Il y a une vraie motivation mercantile derrière Trump. On voit que les affaires sont très florissantes pour le clan de Trump. C'est un des autres aspects de cette présidence-là, notamment ces dîners. Et vous le racontez très bien, hein, le ticket d'entrée, $1 million. Trump compte en millions, voire plus fréquemment en milliards.
Oui, c'est-à-dire que Donald Trump, tous les présidents américains des dernières décennies, tous les candidats et puis les présidents au pouvoir, ont continué à faire des levées de fonds quand ils étaient présidents. Barack Obama faisait des dîners dans des villas hollywoodiennes avec des grandes stars, signait des chèques importants de levées de fonds pour les campagnes. Donc ça, c'est l'argent est présent. Quoi qu'on en pense, l'argent est présent dans la vie politique américaine et les démocrates sont d'ailleurs meilleurs que les républicains souvent pour lever des fonds. Donc c'est pas ça l'objet du scandale, quoi qu'on pense d'ailleurs de la place de l'argent dans la politique américaine. Non, ce qui est frappant avec Trump dans ce deuxième mandat, ce qu'il ne faisait pas dans le premier mandat, ou en tout cas pas autant, c'est à quel point il a non seulement continué à faire des affaires, mais il profite de la Maison-Blanche pour... en gros, il a doublé sa fortune. Enfin, la fortune des Trump a doublé depuis son retour à la Maison-Blanche. Et de façon assez décomplexée, voire même totalement décomplexée, et notamment en investissant les cryptos. Et ce que je raconte, c'est notamment des dîners de non pas de donateurs, parce que ça, il en fait aussi par ailleurs, et l'argent va à la campagne ou au parti, mais là, des dîners d'investisseurs dans la crypto, donc il a lancé une crypto Trump, son épouse a lancé une crypto Melania. On voit que la famille Trump gagne de l'argent ainsi, mais aussi... dans le Golfe, c'était avant le début de la guerre en Iran, on voit à quel point l'Arabie Saoudite, le Qatar ont d'une certaine manière abreuvé les Trump, lui, ses enfants, son gendre Jared Kushner, d'argent. Pas toujours d'ailleurs de façon illégale, hein, c'est des investissements dans un fonds, c'est tel des permis de construire pour bâtir un hôtel, un golf, etc. Mais d'une certaine manière, on a bien vu qu'il y a un moyen de peser ou de se faire entendre, de se faire écouter par le président des États-Unis, c'est de mettre de l'argent sur la table et d'acheter un accès au fond. Et là où c'est assez spectaculaire, c'est que, comme je vous l'ai dit, que des présidents américains vendent entre guillemets vendent leur accès à eux des démocrates et des républicains l'ont fait, mais c'était pour financer des campagnes électorales. Là, c'est pour gonfler le portefeuille et les poches très bien remplies déjà de la famille Trump. Et en ça, c'est assez spectaculaire parce qu'il le fait sans vergogne, sans vraiment d'ailleurs chercher à masquer ce qui aurait créé, déclenché des scandales pour n'importe quel autre président, républicain ou démocrate. Quand on pense par exemple que Jimmy Carter, qui était un démocrate, enfin bon, je dis démocrate, mais il aurait pu être républicain, mais Jimmy Carter, quand il a été élu en 1976, a dû placer dans un trust la ferme de cacahuètes dans laquelle qu'il procédait, dont il était, où il avait grandi en Géorgie, donc c'est pas une ferme très riche, hein. Tout ça pour séparer les intérêts privés de cette entreprise et la crédibilité du président des États-Unis, voilà. D'autres responsables américains, et c'est le cas pour les Bush, par exemple Bush père et Bush fils, qui étaient républicains, ont dû, et c'était une famille très fortunée, ont dû mettre des garde-fous pour qu'il n'y ait pas d'accusation, pour qu'ils ne soient pas accusés de profiter de la présidence pour leurs affaires. Trump s'en moque totalement. Je pense que nous n'avons pas idée, en tout cas nous n'avons pas le détail de la manière dont les Trump bénéficient, profitent financièrement totalement de cette présidence, de ce deuxième mandat. Et en ça, même si dans le premier mandat, ses fils continuent à faire des affaires, mais néanmoins, il y avait une forme de précaution, en tout cas de précaution. Là, il n'y en a quasiment pas.
Une dernière question, Philippe Corbet, avant de conclure cet entretien. Selon vous, que cherche Donald Trump? On le voit, la richesse, c'est en cours, c'est fait. Aussi tenté qu'on en veuille toujours plus, mais quel est le ressort numéro, l'autre ressort, c'est quoi? La postérité, la légende?
Oui, alors la légende, mais pas forcément pour l'histoire, même si évidemment, comme plein de gens puissants, il espère qu'il laissera une trace dans l'histoire, mais c'est la légende aujourd'hui en fait, parce qu'aujourd'hui il est une légende, il est une légende honnie pour certains, légende adulée pour d'autres. Mais il est une légende, qu'on le veuille ou non. Et c'est aujourd'hui l'attention qu'il suscite, le fait qu'il soit depuis 10 ans, non seulement l'homme le plus puissant du monde à 2 reprises dans des mandats, mais aussi l'homme qui capte le plus l'attention, qui est au centre des conversations, et l'homme qu'on regarde, qu'on écoute, mais aussi qu'on regarde. C'est ça qu'il cherche, être au centre. Et on en revient à ce qu'on évoquait tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il faut revenir à New York, c'est-à-dire... Le gamin, il vient pas d'une famille pauvre, hein, mais son père était un propriétaire immobilier, mais pas des quartiers les plus prestigieux de New York, pas de Manhattan, c'était dans le Queens. Il regardait Manhattan de loin, les tours, les belles familles, les soirées mondaines, et il a voulu en être. Et non seulement il a réussi à en être, mais il a réussi à être l'homme incontournable sur la planète. Et en ça, c'est aussi ça, c'est aussi pour ça que le personnage Trump est assez est très américain, c'est-à-dire que cette envie, cette pulsion personnelle qui d'être au centre de tout, en haut de l'affiche, et il a réussi.
Merci beaucoup, Philippe Corbet. Je rappelle le titre de votre livre pour en savoir plus sur ce Donald Trump-là, sur les mécanismes du Trumpisme, tous ses ressorts, ses outrances, mais aussi toutes ces affaires qui vont avec. Arme de distraction massive, c'est de Philippe Corbet et c'est chez Grasset. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis.